Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Je vous propose que, sans tarder, nous ouvrions nos Bibles pour nous pencher sur le texte qui sert de base à notre réflexion sur ce thème, l'audace et le bon sens de la foi. Premier livre de Samuel, au chapitre 17, l'histoire de la confrontation du géant Goliath, représentant les Philistins, avec le jeune David, représentant le peuple d'Israël. 1 Samuel 17, nous lirons à partir du verset 38, après que le jeune David ait fait son enquête sur le champ de bataille. Il vient de s'entretenir avec Saül, il vient de lui présenter une déclaration de la foi, et Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre d'autres mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Nous faisons un petit tour dans le Nouveau Testament ensemble, dans l'épître de Jacques. Au chapitre 2, épître de Jacques, donc vers la fin de votre Nouveau Testament, et dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 14, Jacques 2, verset 14, « Mes frères, mais que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela fut mis sur son compte à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers, qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Certains d'entre nous ne sont ici que ce matin. Or, notre thème est en cours de développement depuis déjà jeudi après-midi. Nous avons donc derrière nous quelques heures de réflexion commune sur cette question importante de la foi. Nous nous sommes essentiellement penchés jusqu'à hier soir sur ce que nous avons intitulé « Les fondements de la foi ». Nous avons ainsi évoqué la nécessité pour la foi, afin qu'elle soit authentique, afin qu'elle soit vraie, d'être fondée sur Dieu lui-même. Je n'entrerai pas dans les détails, nous sommes limités par le temps. Une foi fondée sur Dieu lui-même, sur l'existence de Dieu, et sur l'expérience de Dieu, une foi fondée sur son caractère, sur sa puissance, sur sa fidélité, sur sa générosité, sur son pardon. Et nous pourrions ainsi continuer sur sa sainteté, sur sa justice. Hier soir, de manière toute particulière, nous avons ajouté un élément indispensable, à savoir que la qualité de notre foi était liée à la qualité de notre connaissance personnelle de Dieu, de notre vision de Dieu et de l'équilibre de notre vision de Dieu. Et que cet équilibre de notre vision de Dieu était lié à notre connaissance des Écritures. Et nous nous sommes appuyés sur ce verset des Écritures dans Romains chapitre 10, verset 17, qui nous indique que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Une foi authentique ne peut reposer que sur la parole d'un Dieu qui ne ment jamais. Et il nous faut pour cela, bien sûr, avoir une attitude d'humilité et de soumission à l'endroit de ce livre extraordinaire, Parole de Dieu, dont Dieu s'est servi pour révéler le Christ au fil des siècles à des millions d'êtres sur la terre. C'est le contact avec la Parole de Dieu qui permet à Dieu, par excellence, au-delà de toutes sortes de cheminements, de faire aboutir quelqu'un à la naissance de la foi, à la nouvelle naissance, à ce que nous avons intitulé cette sorte de mariage, cette sorte de foi conjugale par laquelle Dieu s'étant livré à l'homme dans le don de son Fils Jésus-Christ, ayant lui manifesté sa foi, sa fidélité, son amour indéfectible, jusque dans la mort du Fils sur la croix, l'homme répond comme l'épouse, « Oui, j'accepte avec joie, avec reconnaissance, de me lier à toi pour l'éternité. Acte de foi. Nous voulons aller un peu plus loin ce matin et simplement une petite remarque liée aux versets 46 et 47 d'1 Samuel 17 et qui nous permet d'entrer aujourd'hui dans ce que j'ai intitulé les attitudes concrètes de la foi. Si nous relisons ces versets 46 et 47, nous constatons une chose. Elle est révélée clairement dans la fin du verset 47, lorsque le jeune David prononce ces mots, « Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Ce que Dieu a voulu nous dire par cette expression dans la bouche du jeune David, c'est que la foi authentique anticipe la victoire divine, parce qu'elle est une assurance. David proclame par avance la victoire de l'Éternel. Il n'a encore rien fait, sinon choisi ses armes. Nous en parlerons cet après-midi. Et pourtant, déjà, regardant en quelque sorte Goliath et les Philistins qu'il représente droit dans les yeux, il leur dit « Vous êtes vaincus ». C'est un fait. Présomption orgueilleuse, diront certains. À quoi Dieu répond tout simplement non. C'est ça la foi authentique. Notre frère tout à l'heure a lu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 quelques versets, mais j'aimerais rappeler que cette galerie de portraits des héros de la foi, parmi d'autres, tous n'y sont pas, loin de là, commence par une introduction, Hébreux 11 verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset est difficile à traduire, non pas par de quelconques ambiguïtés, pas du tout, mais par la générosité des termes qui peuvent être utilisés dans le texte original, dans le texte grec du Nouveau Testament. Tous ces termes étant très complémentaires les uns aux autres. Si bien qu'on a pu traduire de manière plus littérale encore, la foi est une appropriation des choses qu'on espère. Et d'après d'antiques papyri, on sait que le terme utilisé, le terme grec, signifie très exactement une garantie, un titre bancaire. Si bien qu'un transcripteur du Nouveau Testament de traduire ce verset de cette manière. Et qu'est-ce que la foi ? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà d'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un a donné cette définition de la foi. La foi, c'est la main du cœur qui saisit les réalités de l'esprit. Faut-il rappeler que la hardiesse de la foi, l'assurance de la foi, l'affirmation de la foi et de la victoire de la foi n'est possible, c'était notre conclusion d'hier soir, que dans la mesure où nous avons une relation toute personnelle, très étroite, avec le Dieu des Écritures et avec son Fils Jésus-Christ. Tout simplement parce que c'est de cette relation étroite avec notre Dieu et avec son Fils Jésus-Christ que dépend notre connaissance de Dieu. notre connaissance de son caractère, notre connaissance de ses promesses, de sa vision des choses, de sa philosophie de la vie. On ne peut avoir l'intelligence des voies de Dieu dans le monde d'aujourd'hui que lorsqu'on vit avec lui. Et c'est précisément la vie dans l'intimité de Dieu qui développe en nous des convictions, des certitudes intérieures, une sensibilité à la voix de Dieu. Je peux me prononcer avec autorité dans le domaine de Dieu dans la mesure où je connais les lois spirituelles qui régissent la vie des hommes, de l'humanité tout entière. Vous le savez, dans le monde, que ce soit dans le domaine de l'électronique, des ordinateurs, la télématique, que ce soit dans quantité d'autres domaines, les hommes qui font autorité, que l'on écoute, et qui ont une certaine audace de foi naturelle, comme nous l'avons dit, ce sont ceux qui s'y connaissent dans le métier. Ce sont ceux qui ont potassé, ce sont ceux qui ont travaillé, ce sont ceux qui ont étudié, et ce sont ceux qui, au-delà, ont expérimenté. Ceux-là sont des hommes pris au sérieux. Ainsi en est-il dans le domaine spirituel. C'est de notre intimité avec le Seigneur, c'est de notre expérience de Dieu, c'est de notre connaissance de sa pensée que va dépendre notre autorité et l'affirmation de certaines certitudes de la foi. Et c'est ainsi, et peut-être plusieurs d'entre nous en ont fait l'expérience, c'est ainsi que telle promesse, lue dans les Écritures au cours d'une rencontre, le matin, avec Dieu, va bondir hors du texte biblique, avec une intensité bouleversante. Dieu va nous dire « ça, c'est pour toi ». Et une conviction va s'installer profondément dans nos vies, que les vents et les marées de l'opposition ne pourront pas déraciner. Et c'est cette conviction qui va nous aider à surmonter des montagnes d'évidence contraire. Car on se saura dans la pleine volonté de Dieu. La foi, c'est une conviction éclairée. L'audace de la foi repose sur cette relation personnelle avec notre Dieu. Et c'est pourquoi, face à certaines évidences contraires, Dieu nous appelle à proclamer avec foi sa victoire, à le remercier par avance pour son exaucement. Et c'est là une des marques de la foi. La foi ne remercie pas seulement après, ce que nous oublions déjà très souvent, mais elle remercie déjà avant l'exaucement. Elle est déjà action dans sa proclamation de la bouche auprès du Seigneur par un chant de reconnaissance et de louange. J'aimerais ici vous faire part d'une petite expérience qui date du tout début de ma formation au service de Dieu, alors que j'étudiais en Suisse, dans la montagne. C'était l'automne, l'hiver approchait, nous étions en altitude, les hivers sont rudes, il faut être bien équipé. Et j'avais très très peu de moyens, déjà même pour payer mes études, si bien que cet automne-là, j'étais chevalier de la Bourse Plate. C'est un titre, comme un autre, mais qui permet à Dieu de se manifester. Et je me souviendrai toujours de ce matin où, jeune étudiant, dans ma chambre, j'ai balbutié au Seigneur, dans ma toute petite foi, « Seigneur, j'ai besoin de deux choses. » Et tu vois, je n'ai absolument pas les moyens de me les payer, je n'ai pas une famille derrière moi pour me soutenir même et pour m'envoyer des fonds. Je ne peux réellement que compter sur toi. Et je voudrais tellement te connaître d'une manière toute particulière comme le Dieu qui prend soin de nous dans les petits détails de la vie quotidienne. Alors Seigneur, j'aimerais en confidence, c'est entre toi et moi, je ne l'ai dit à personne d'autre, j'aimerais te dire dans le creux de ton oreille, parce que tu es mon Père céleste, j'ai besoin d'une paire de chaussures hautes, fourrées, pour la montagne, pour les épaisseurs de neige, et puis d'un bon manteau bien chaud, parce que franchement, j'appréhende l'hiver qui vient avec le peu d'équipement. Et j'ai refait cette demande pendant 4 jours. Chaque jour, au moment d'une rencontre avec mon Dieu et Sauveur, je lui répétais ma requête. Et le 4e jour, alors que j'étais en train, une fois de plus, de réitérer ma demande, de manière extrêmement claire, dans cette relation que nous pouvons avoir avec ce Dieu, cette relation vivante, intérieurement, et sur la base de ce qui nous est dit dans la Bible au sujet de notre vie de prière, d'une part, Dieu a installé une conviction dans mon cœur. La foi est une conviction. Dieu a mis en moi une conviction profonde que ma prière était exaucée. Il m'a dit, tu sais, c'est fait. Je m'en suis occupé. Toi, tu ne le vois pas, mais moi, c'est déjà fait. Nous avons beaucoup souligné depuis jeudi que la foi regarde à l'invisible. Elle ne s'attache pas aux choses visibles. Et beaucoup de choses sont déjà réalisées dans l'invisible de Dieu alors que nous ne les voyons pas encore sur la terre. Et Dieu a ajouté quelque chose dans mon cœur. Il m'a dit, Maurice, je te demande une chose maintenant. Est-ce que tu crois que c'est réalisé? Seigneur, si tu me le dis, je veux bien croire. Bon, Maurice, tu vas me dire merci. Et je me souviens, c'est tellement clair encore en moi, j'ai balbutié les remerciements de la foi. J'ai en quelque sorte proclamé dans ma prière que je croyais que l'exaucement était là. Dans l'heure qui suivait, le téléphone sonnait et un ami habitant à 25 kilomètres de là, qui n'était pas du tout au courant de ces histoires, puisque personne ne le savait, en dehors de Dieu et moi-même, cet ami me téléphone et me dit, « Maurice, j'ose à peine te faire cette proposition. » Il était quelque peu gêné, parce qu'en Suisse, on est parfois gêné aux entournures lorsqu'on aborde certains thèmes de ce genre. Il m'a dit, « J'ose te proposer, te connaissant bien, quelque chose. Est-ce que tu aurais besoin d'une paire de chaussures ?» J'ai dit, « Ah, ça m'intéresse. J'ai là une paire de chaussures hautes, neuves, fourrées. Et de manière toute particulière, j'ai pensé à toi. » Il ne m'a pas demandé quelles étaient quelle était ma pointure. Mais toujours est-il que 2 jours plus tard, 2 paquets arrivés dans cet institut où j'étudiais. Dans le premier, il y avait la paire de chaussures. J'allais dire qu'elle m'allait comme un gant, mais ça ne colle pas avec les chaussures. Mais elle m'allait à merveille. Et c'est une paire de chaussures que j'ai utilisée pendant des années ensuite, vu leur solidité, qualité suisse. Pardon, je fais de la publicité. Mais il y avait dans l'autre paquet un manteau. Un manteau fourré, qui avait été envoyé par la même main, tout simplement parce qu'entre-temps, au moment où cet ami faisait son paquet avec les chaussures, quelqu'un lui avait proposé d'y ajouter le manteau dont j'avais besoin. C'est une petite histoire, mais qui nous montre que c'est ça la foi, n'est-ce pas ? Cette conviction qui naît dans l'intimité de notre Dieu et sur la base d'une connaissance de loi spirituelle dans les Écritures et qui fait que nous apprenons à avoir une oreille écoutante, une sensibilité intérieure liée précisément à cette connaissance de la pensée de Dieu dans les Écritures. Il ne s'agit pas d'écouter n'importe quelle voix parce qu'il y en a d'autres qui parlent, n'est-ce pas ? Mais le point de repère, c'est de connaître les Écritures pour voir si cette voix qui nous cause là dans notre être intérieur correspond bien à ce que nous disent les Écritures. Et alors s'installent en nous des convictions qui font que même parfois les autres sont embarrassés en face de nous, essayent de nous contredire. Mais nous savons que nous sommes sur le terrain solide des Écritures. Dieu a installé en nous des certitudes, et ces certitudes, nous pouvons les proclamer désormais contre vents et marées, jusqu'à leur accomplissement. Spurgeon, ce prince des prédicateurs dont nous parlions hier soir, a dit ceci: qu'est-ce qu'une promesse de Dieu? Le chrétien doit considérer une promesse de Dieu comme une réalité, de même qu'un négociant le fait pour un chèque qu'il reçoit. Il doit la prendre et la signer de son nom comme s'appliquant à lui personnellement. Après quoi, il présente cette promesse à Dieu comme on présente un mandat à une caisse et prie en comptant sur son accomplissement. Et à la date désignée, il reçoit la grâce promise. Il y a des gens qui négligent de signer le chèque, en sorte qu'il ne leur est rien payé. D'autres tardent à le présenter et ne reçoivent rien non plus. La faute n'en est pas à la promesse, mais à ceux qui n'en usent pas d'une manière pratique et personnelle. Et avant de passer au point suivant, je souligne simplement cette parole d'un évêque anglican, homme de Dieu remarquable du XIXe siècle, qui disait ceci: la moitié de nos doutes et de nos craintes provient des notions vagues que nous avons de la véritable nature de l'Évangile de Christ. La source d'une foi épanouie, c'est la connaissance claire, nette et bien définie de Jésus-Christ. Donc, n'attendons pas passivement cette foi hardie, audacieuse, entreprenante, tout en étant pleine de bon sens. Ne l'attendons pas passivement. Elle se développe au contact des Écritures, au contact du Dieu vivant, en creusant les Évangiles, en découvrant la personne et le caractère du Christ. Peu à peu, le Saint-Esprit travaille en nous et crée en nous des certitudes. J'aime à dire que le disciple du Christ a ceci de particulier dans le monde troublé d'aujourd'hui, c'est qu'il est homme, femme, jeune, qui a des certitudes inébranlables dans un monde où tout est devenu terriblement relatif et insécurisant. Dans le prolongement de cette pensée, j'aimerais simplement ajouter ceci encore. La foi obéit. La foi authentique agit. Elle prend Dieu au mot. Imaginez un petit peu que le jeune David, après avoir dit, en présence de tant de témoins, « Il vous livre entre nos mains », était reparti chercher son pactage et était rentré auprès des troupeaux de son père. C'est-à-dire que si ces paroles de foi n'avaient pas été suivies de l'action de la foi. Ainsi, la foi ne consiste pas à faire des déclarations fracassantes. La foi ne consiste pas simplement à réciter des credos, des confessions de foi le dimanche matin. Certes, c'est une bonne chose. Et dans les Écritures, il existe des credos, des confessions de foi, des proclamations de la foi. Mais souvent, nous nous trompons nous-mêmes parce que nous essayons de nous convaincre que cela est suffisant pour faire de nous d'authentiques disciples du Christ. La foi sans les œuvres est morte. Certes, on ne vient pas à la foi par les œuvres. Certains d'entre vous savent que Luther avait pas mal de problèmes avec l'épître de Jacques, dont nous avons lu un extrait tout à l'heure, puisqu'il l'appelait l'épître de paille. Issu d'une confession catholique terriblement centrée sur la pratique des œuvres, en vue d'aboutir à une certaine foi très énigmatique, et ayant eu un mal fou à s'extirper de cette fange et de cette gangue et de cet esclavage d'œuvres qui le rendait de plus en plus malheureux, il avait de la peine à comprendre voyez que même les grands hommes de Dieu dans l'histoire ont eu de la peine à comprendre certaines vérités. Cela doit nous consoler, n'est-ce pas? Il avait de la peine à comprendre que l'épître de Jacques n'était pas en contradiction avec le message de l'apôtre Paul, mais tout simplement complémentaire. À savoir que si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, dans la mesure où nous entrons dans une relation personnelle avec le Christ, notre relation avec lui va se traduire par des œuvres. Ainsi en est-il de la foi. Celui qui me dirait « j'ai la foi, mais je ne pratique pas » ne pourrait être qu'en contradiction avec les Écritures. Parce que vivre d'une foi authentique, c'est obligatoirement, par la force même des choses, déboucher sur une pratique. Nous n'avons pas été créés de manière nouvelle par le moyen de nos œuvres, mais en vue de bonnes œuvres que Dieu en Jésus-Christ a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. D'ailleurs, l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, au verset 5, et au chapitre 16 et verset 26, utilise cette petite locution, cette petite expression, l'obéissance de la foi. Nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux 11, verset 7, que c'est par la foi que Noé, saisi d'une crainte respectueuse, sous-entendu d'une obéissance respectueuse, construisit dans des circonstances absurdes le bateau de la foi, qui était aussi l'arche du salut. Dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, verset 6, Dieu de nous dire que la foi est agissante par l'amour, par des actes d'amour. Et puis Hébreux 11, verset 8, lu tout à l'heure, c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. C'est le philosophe danois Kierkegaard, qui n'est pas du tout à recommander par bien des aspects, mais qui a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit « Il est difficile de croire, non parce qu'il est difficile de comprendre, mais parce qu'il est difficile d'obéir. » Et souvent, nous faisons ce qui ne comprennent pas, parce que nous sommes interpellés par certains textes où Dieu voudrait nous pousser à l'action, à l'obéissance. Alors on est un petit peu comme les enfants qui font les sourds d'oreilles quand les parents demandent quelque chose, hein. « Va ranger les chaussures. »« Comment, papa ? J'ai pas compris. » Dis, « Eh, va ranger les chaussures. » C'est comme ça que nous sommes avec notre Dieu. Nous avons toutes sortes d'attitudes qui sont autant d'excuses devant la nécessité d'obéir. C'est Mark Twain, l'humoriste américain, qui disait à quelqu'un, qui répondait à quelqu'un qui lui disait « Moi, je suis gêné, je ne veux pas croire parce qu'il y a un tas de choses que je ne comprends pas dans la vie. » Et Mark Twain, qui avait la parole remarquable dans ce domaine, lui a dit « Tu sais, moi, ce n'est pas ce problème. Le problème dans la Bible, pour moi, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je comprends. » Il s'agit d'être droit de cœur dans notre vie. Ne faisons pas les ânes sourds d'oreilles alors que Dieu est en train de vouloir nous diriger dans une voie d'obéissance. Oh, je pense à ce vieil Écossais. Ce vieil Écossais qui connaissait le Seigneur Jésus-Christ et qui avait une petite embarcation qu'il utilisait pour le transport des passagers. Et pour pouvoir témoigner de sa relation personnelle avec le Christ, il avait fait peindre sur les deux rames de son embarcation deux petits mots, l'un sur chaque rame. Sur la première figurait le mot « foi », sur l'autre le mot « œuvre ». Et bien sûr, évidemment, à chaque transport de passagers, les gens étaient captés dans leur regard par cette rame, ces rames qui montaient et descendaient, et ces mots « foi » et « œuvre » qui apparaissaient et disparaissaient tour à tour, si bien qu'il arrivait un moment où il ne pouvait s'empêcher de poser la question « Mais, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Belle manière d'annoncer l'évangile. Eh bien, cet homme l'annonçait sans parole, au départ. C'est-à-dire que, très simplement, il cessait d'utiliser ses deux rames en cadence. Il en lâchait une. Et il n'utilisait plus que l'autre. Et vous savez ce qui se passe. Le bateau se mettait à tourner, à dériver, puis à tourner sur lui-même. Et si l'Écossais, ce jour-là, voulait être un peu méchant, il faisait suffisamment tourner pour que l'autre commence à se sentir un petit peu mal dans sa peau. Et quand il sentait que l'autre était un petit peu mal à l'aise, il arrêtait le truc, hein. Mais il lâchait la première rame et il manipulait alors la seconde. Ce qui fait que le bateau commençait à dériver, à tourner dans l'autre sens. Et puis il arrivait un moment où, charitable, il cessait le petit manège et très simplement, il expliquait. Mais les gens avaient déjà compris pas mal de choses, n'est-ce pas? À savoir que notre problème est dans le déséquilibre. Certains ne parlent que de foi et se réfugient derrière elle pour ne rien faire, hein? Là où d'autres ne parlent que d'œuvres, mais ne veulent rien savoir de cette nécessité d'une relation personnelle, d'une rencontre personnelle avec le Christ. Les uns sont aussi coupables que les autres. Tous deux tournent en rond et ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas grandir dans leur vie personnelle. L'obéissance est la preuve tangible que j'accorde un entier crédit à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Est-ce que nous croyons aux promesses de Dieu? Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons que Dieu n'est pas menteur? Alors nous le prenons au mot. Et notre prise au mot de notre Dieu se traduit en obéissance. Qui ne connaît pas cette histoire célèbre de cet homme qui s'était mis en tête l'idée folle de traverser les chutes du Niagara sur une corde raide en poussant une brouette contenant un homme assis dans cette brouette? Et bien sûr, il s'est entraîné, il ne pouvait pas faire son entraînement au-dessus de la chute du Niagara. Alors il a fait l'entraînement dans son jardin. Il a attaché une corde, il s'est exercé tous les jours pendant une année. D'abord avec une barre d'équilibriste, ensuite sans elle, puis avec une brouette, et enfin avec un chargement de 85 kilos de briques. Et il ne tomba jamais. Et de jour en jour, la foule des spectateurs s'agglutinait aux portes de la propriété, et il y avait notamment son cher voisin Joe qui regardait et qui voyait les progrès. Et ce fait que cet homme n'était jamais tombé. Et finalement, le grand moment est arrivé, la presse s'est emparée de l'affaire, une marée humaine s'est pressée sur les bords, là, auprès des chutes, pour le voir. Et bien sûr, l'homme à la brouette semblait un peu nerveux. Il regardait devant lui, là, jusqu'au bout du câble. Et il s'est tourné, finalement, vers son fidèle voisin, lui demanda, « Joe, est-ce que tu crois que j'y arriverai ?» Et Joe lui tapait sur l'épaule avec confiance, « Mais j'en suis sûr, j'ai parié un dixième de mon revenu sur toi. » Et l'homme de regarder à nouveau par-dessus les chutes et lui demander encore une fois, « Joe, mais est-ce que tu le crois réellement ?» Et Joe répondit avec sérieux, « Je le crois réellement. »« Bien, tu es mon homme, monte dans la brouette. » Ah, les amis, c'est là que Dieu nous coince, hein? C'est comme dans le mariage, hein? D'autres que moi l'ont dit avant moi, hein? Au moment du mariage, hein? Ou bien on dit oui et on plonge, ou bien mieux vaut s'abstenir. Mais les mariages à la Normande, pardon, vous savez ce que je veux dire, hein? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Moi je ne connais pas une demoiselle sérieuse qui accepterait de s'engager Si elle entendait son chéri dire à monsieur le maire, oh, vous savez, hein, attendez que je regarde dans mon agenda si ça colle, peut-être ben quoi, peut-être ben quand, non. Quand on dit oui avec le Seigneur, on s'engage. Et on entre dans l'obéissance de la foi. J'ai emprunté, il y a quelques mois, un de ces rares escalators de la région parisienne. Il y en a peu actuellement. Mais qui ont ceci de particulier, c'est qu'il faut mettre les pieds dessus pour que ça marche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais je sais une chose, c'est que beaucoup ont des problèmes avec ces escalators. Parce qu'ils manquent de foi dans l'indication qui est sur les pancartes. Alors ils sont comme certains petits chats, vous savez, qui avancent la patte. Ils touchent un petit peu du bout du pied, hein, comme d'autres se mouillent dans la mer quand elle est trop froide. Hein, on touche tout juste du bout de la patte. Et ça ne bouge pas. Alors ils appuient un petit peu plus fort, et je pense à un ami africain qui a eu pas mal de problèmes avec un escalator de ce genre. Mais il faut mettre les deux pieds. Il faut peser de tout son poids. Et il ne faut pas oublier un pied. Parce qu'il y en a qui se retrouvent en faisant le grand écart, n'est-ce pas? C'est cela la vie dans la foi. Je prends au sérieux les inscriptions de mon Dieu concernant la marche par la foi et je m'engage. Comme les sacrificateurs qui, pour que le Jourdain s'écarte et laisse passer des centaines et des centaines de milliers d'individus, devaient poser la plante de leurs pieds dans le flot du Jourdain débordant sur ses rives. Ils devaient se mouiller. Une foi authentique se mouille. Elle s'engage. Elle passe à l'action. J'aimerais terminer ici, et je termine simplement en vous donnant cette dernière illustration. Quand les guerriers romains ont été envoyés pour conquérir l'Angleterre, des milliers d'habitants de l'île, les ancêtres des Anglais, se rassemblèrent courageusement sur les hauteurs pour défendre leur patrie. Et ils voyaient là cette armada de vaisseaux qui approchaient de leurs côtes, qui accostaient, des soldats qui en sortaient, et ils les attendaient de pied ferme. Lorsqu'à leur grande surprise, ils virent une chose qui les stupéfia. Tous ces Romains, avant de partir à l'attaque de cette île, de mettre le feu à leurs embarcations. Ils se coupaient toute possibilité de retrait. Et c'est ainsi que, galvanisés aussi par cette rupture avec le passé, ils furent vainqueurs sur cette île. Et je dirais que, dès la conversion à Christ, dès que nous entrons dans cette merveilleuse vie, difficile certes, mais merveilleuse, avec le Christ fidèle qui ne nous décevra jamais sur la base de sa parole, dès notre conversion au Christ, la vraie foi doit se traduire par des actes de rupture avec le passé. Ce sont là les preuves que nous prenons vraiment notre Dieu au sérieux. Certes, notre rupture avec le passé ne sera pas rupture de dureté avec les membres de notre famille, au point d'être méchant, brutal, incompréhensible à leur égard. Mais ce sera une rupture d'avec le péché, d'avec certaines habitudes, d'avec certaines idoles, d'avec certaines manières de vivre et d'être, qui ne sont pas en conformité avec tout ce que le Christ nous fait voir concrètement dans sa parole concernant la marche du disciple du Christ par la foi. Alors que Dieu nous accorde cette intégrité, cette droiture, cette transparence, cette honnêteté qui voudra aller au-delà d'une foi de théories qu'on appellerait croyances. Mais dans une foi qui sera manifeste dans une obéissance quotidienne, grâce à une union profonde, une intimité, une relation personnelle, jour après jour, avec le Dieu merveilleux qui nous a donné la Bible, ce livre parfaitement fiable, parce que parole d'un Dieu qui ne ment pas. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que toi-même, tu ne t'es pas engagé simplement en parole dans ton ciel. Tu n'as pas simplement donné des conseils, des ordres, des recommandations, des avertissements aux hommes depuis le ciel. Tu ne t'es pas arrêté à la parole de la foi et de la fidélité. Non, la parole a été faite chair. Et elle a campé au milieu des hommes. Merci pour l'obéissance de la foi dans la vie du Seigneur Jésus, de ton Fils. Merci parce que son engagement a été concret jusqu'au don le plus total. Merci de t'être donné, de nous avoir précédés dans un acte de fidélité qui a bouleversé la vie de tant d'hommes sur la terre. Maintenant, tu nous appelles à marcher à la suite de ton Fils, celui qui suscite, qui fait naître la foi et qui la conduit à sa perfection. Seigneur, donne-nous de nous engager vraiment sur un chemin d'obéissance, de la foi, dans tout ce que tu peux même nous avoir montré pendant ce week-end, afin que nous grandissions harmonieusement et que nous portions du fruit en abondance et surtout du fruit qui demeure, afin que le Christ soit glorifié, exalté et reproduit dans chacune de nos vies. Amen.